Place Info.
Bonsoir et bienvenue. Des plages, des médailles, des dissidences au menu des informés. Ce soir, nous en débattons avec Audrey Goutard, journaliste sur France 2, présentatrice de Ligne Directe sur France Info, le canal 27, avec Alexandre Falipou, directeur numérique du magazine L'Obs, avec Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, et Chloé Morin, politologue associée à la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir à tous les quatre. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio. Les plages rouvertes donc dans le Finistère, en Vendée, en Loire-Atlantique, cela fait rêver après de si longues semaines confinées. Le sable à Pornichet depuis 8h ce matin est accessible, mais sous conditions, a précisé sur France Info Claude Pelter, le maire de la commune.
C'est une plage dynamique, c'est-à-dire vous pouvez marcher, vous pouvez courir, vous pouvez nager, vous pouvez faire du surf, du catsurf, du paddle, du longe-côte. Mais il est hors de question de stationner, de s'asseoir ou de s'allonger. Et comme il n'y a pas de concomitance entre l'ouverture des bars et des restaurants et puis l'ouverture des plages, eh bien la plage sera interdite de 21h à 8h le matin parce que on a peur de rassemblement sur les plages. On n'est pas sorti de la crise sanitaire, il faut que les gens respectent les gestes barrières, c'est hyper important. La police municipale passera régulièrement. J'ai deux webcams sur la plage que tout le monde peut consulter. Donc c'est extrêmement facile de voir s'il y a un rassemblement ou si les règles ne sont pas respectées. Donc on agira en coordination avec la police nationale.
Audrey Goutard, cette annonce, cette mesure très symbolique à l'approche de l'été, cela fait phosphorer, pardonnez-moi l'expression, les Français. Pourquoi ? Parce que l'été approche et parce que les gens n'en peuvent plus.
Les gens n'en peuvent plus et on a entendu la maire de Paris, Madame Hidalgo, qui disait qu'effectivement oui. on pouvait pas cloîtrer les gens et c'est vrai que les citoyens, il faut faire appel à leur bon sens et ce maire est malin d'ailleurs parce que d'un côté il ouvre la plage et comme il dit de façon dynamique, c'est-à-dire permettre aux gens de bouger sur la plage, il n'est pas question de s'attrouper, et avec aussi, d'un autre côté, la peur du gendarme, il explique qu'il a des caméras vidéo et que si c'est le bazar, il interviendra. Donc en fait, c'est justement d'un côté la responsabilisation et d'un autre côté dire que si ceux qui n'auront pas un esprit civique risqueront d'être sanctionnés et c'est comme ça que doit fonctionner ce déconfinement, j'imagine, je suppose. Nous on fait pas mal de reportages en ce moment, justement on va devant des Français et on voit bien qu'ils ont d'un côté très envie de bouger, de prendre l'air, d'avoir un souffle d'air et en même temps ils sont très raisonnables, ils comprennent qu'il faut être discipliné, faire attention. Et d'ailleurs vous avez remarqué, on a eu des problèmes à Paris sur les voies sur Berge, sur le canal Saint-Martin, ces problèmes-là ne se sont pas du tout répétés en région. À Lyon, les quais sont aussi des quais piétons aussi agréables qu'à Paris. Les gens sont restés extrêmement disciplinés. Donc effectivement, faire appel aux gens et se dire que ça n'est pas juste l'état gendarme qui va décider, c'est aussi le citoyen qui va faire attention. Et dans ces cas-là, ça peut fonctionner.
Vous diriez, Alexandre Falipou, mesure de confort pour les Bretons, les habitants des régions concernées ou volonté, ici comme ailleurs, de relancer l'activité touristique avant l'heure.
Alors j'ose espérer que ce n'est pas une activité touristique, c'est-à-dire que, je pense que c'est la crainte. Et si les plages étaient fermées jusqu'à présent, c'était pas du tout pour les gens qui habitent à côté de la plage, parce que là, effectivement, les distances de sécurité, il n'y a aucun problème pour qu'elles soient respectées. Le problème, c'est quand on ouvre les plages, ça veut dire on ouvre aussi aux touristes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va tester, effectivement, comme le dit Audrey, avec des gens, on va voir si les gens sont raisonnables. Apparemment, c'est plutôt le cas à quelques exceptions près. À l'Obs, on avait sorti un sondage avec l'Institut YouGov qui montrait que les Français, les pays latins, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les pays latins étaient beaucoup pour l'interdiction. Alors que les pays type la Suède, par exemple, ils étaient complètement contre le confinement. Et d'ailleurs, il n'y a pas de confinement ou très peu en Suède. En fait, les pays latins ont plutôt tendance à se dire si on nous interdit pas de faire quelque chose, si on fait appel à notre bon sens, on le respectera pas. Donc, on préfère qu'on nous l'interdise. 2 mois de confinement sont passés depuis, je pense que les mentalités ont peu changé. On va voir.
Chloé Morin, vous diriez que derrière cette symbolique des plages, il y a tout l'avenir de la filière touristique qui est en jeu. On a vu Bruxelles qui encourage les 27 pays de l'Union à rouvrir les frontières, mais intérieures, mais à la carte.
Oui. D'ailleurs, il y a un paradoxe dans le discours de la droite à ce titre, parce que on a entendu un certain nombre de responsables de droite appeler à travailler plus, voire à céder des jours de congé ou des jours fériés. Et c'était quelque chose que j'avais noté quand je crois Bruno Retailleau avait dit avait fait ses propositions il y a quelques jours, sachant qu'il est dans une région touristique et qu'on se dit finalement, des jours de congé en moins, c'est aussi le secteur des loisirs qui en pâtira. Mais au-delà de cette parenthèse, je trouve que c'est très les plages, c'est très symbolique, parce que derrière, ça véhicule l'imaginaire des congés payés, du Front populaire, des gens qui n'avaient jamais vu la mer. Et depuis, en fait, la moitié des Français, quand ils partent en vacances l'été, vont à la mer. Donc derrière la symbolique des plages, il y a tout ça, il y a la respiration. Et la respiration, évidemment, on en a besoin à l'issue d'un confinement qui a été quand même extrêmement éprouvant psychologiquement pour beaucoup de personnes. Donc c'est pas étonnant qu'on en débatte. Maintenant, il faut se rendre compte que l'humeur des Français, elle est entre cette aspiration à la respiration et puis une crainte qui reste marquée. Il y a un sondage Elabe qui a été publié ce soir qui montre que 7 Français sur 10 alors qu'il anticipe une seconde vague, ou qu'un parent sur deux continue à dire qu'il n'enverra pas ses enfants à l'école. Donc,
vous nous dites que l'angoisse est toujours là ce soir, Chloé.
Oui, exactement.
Allez, 20h10 sur France Info, c'est l'heure du fil info. Claire Breguet-Lamarre.
Prudence, mais le dernier bilan de la Direction générale de la Santé semble encourageant. Le nombre de patients en réanimation diminue, le nombre de décès également, avec 83 décès supplémentaires depuis hier. Les soignants de 40 départements vont toucher la prime Covid de 1 500 €. Il s'agit des départements les plus touchés, l'Île-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté notamment. Dans les zones qui ont moins souffert de la pandémie, cette prime sera de 500 €. La prudence d'Emmanuel Macron après bientôt 3 jours de confinement. Il est trop tôt pour crier victoire, mais la voie suivie est la bonne, estime le chef de l'État. Prochain tournant délicat, ce sera le week-end de Pentecôte avec une nouvelle étape possible si l'épidémie n'a pas progressé. Les contrôles à la frontière entre la France et l'Allemagne sont maintenus jusqu'au 15 juin, avec tout de même un assouplissement à partir d'aujourd'hui. Les visites à un parent en EHPAD, par exemple, sont désormais possibles. Achetez nos fromages, demandent les professionnels de la filière laitière AOP et IGP. Leurs ventes s'écroulent depuis la mi-mars. Neuchâtel, Saint-Nectaire ou Rocamadour, il faut que les Français en consomment. Sinon, cette filière ne se relèvera pas, disent-ils. Et puis les clubs de foot italiens de première division, la Serie A, veulent reprendre le championnat dans un mois, le 13 juin précisément. C'est le gouvernement qui doit trancher, mais il reste très prudent pour le moment.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Stéphane Vernet, à Ouest-France, j'imagine que cette rouverture des plages est largement commentée. Vous y voyez une page tournée sur cette épidémie où, comme cela a été dit auparavant, eh bien c'est une sorte d'approche, là comme ailleurs, comme à l'école, comme dans les grandes surfaces, comme partout, dans toutes les activités, une sorte d'approche au cas par cas de l'après-Covid-19.
Non, mais alors, il y a une partie des plages qui ont commencé à rouvrir dès aujourd'hui dans le Finistère. Il y en a d'autres qui rouvriront d'ici la fin de la semaine, samedi par exemple, en Ille-et-Vilaine. Ça se fait au cas par cas, préfecture par préfecture, dans des négociations entre les élus, donc à la demande des maires et les préfets. Pour nous, c'est très important, parce que si vous voulez, il y a effectivement la problématique du fait de rouvrir les plages qui pourraient générer des mouvements de population, notamment qui verraient les citadins, en fait, quitter les villes, les week-ends, etc., pour aller massivement sur le front de mer. Et là, par rapport à l'épidémie, ça peut poser un problème, mais le souci de la fermeture des plages pendant la période de confinement, c'est qu'en fermant les plages, on ferme aussi tous les accès à la mer. Et c'est-à-dire que depuis le début du confinement, c'est pas seulement le fait de pouvoir aller à la plage pour profiter de la mer et du soleil, etc., qui est coupé, c'est aussi toutes les activités de plaisance, et donc toute une partie des activités, la pêche en mer, les sorties en kayak, oui, le surf, tout ce que vous voulez. En fait, il y a toutes sortes d'activités qu'on ne peut plus pratiquer, alors que en termes sanitaires, il y a aucun risque. C'est quand vous êtes tout seul au milieu de l'eau, vous pouvez pas contracter le coronavirus ou le propager. Et en fait, la coupure du littoral, elle a eu cet effet induit négatif qu'on va pouvoir rétablir en rouvrant les plages.
Alors il est question évidemment en creux de toutes ces décisions de la relance de l'économie. Éric Woerth demande l'ouverture des magasins le dimanche pour justement accélérer le processus. Le président Les Républicains de la commission des finances de l'Assemblée nationale tout à l'heure sur France Info.
Je pense que c'est important de laisser la liberté à chacun de décider s'il peut ouvrir ou pas le dimanche pendant 2 mois ou sur les 3 mois ou les 4 mois qui viennent. Les Français ont terriblement épargné pendant ces jours. C'est 50 à 60 milliards d'épargne de précaution supplémentaire. Il faut bien que cette épargne, on la retrouve à un moment donné dans la consommation. Ou alors on décide qu'il y a de 1 million ou 1 million et demi de chômeurs de plus dans les 4 mois qui viennent. Si on veut ça, on bouge pas, on fait rien. Mais si on veut que la consommation reprenne, faut aussi que les commerces soient ouverts.
Audrey Goutard, on n'est plus dans les débats d'avant, parce qu'on en avait parlé aux informés, souvenez-vous, quand le monde n'avait pas le virus sur les épaules. Ce n'est plus vraiment le même débat, parce qu'au fond, ce que dit Éric Woerth, et ce qui est d'ailleurs sujet à contestation, c'est que désormais, il faut accélérer. Il y a trop de monde au chômage aujourd'hui, et la machine est en train d'être de plus en plus grippée.
C'est vraiment une vision philosophique. Quand le début de la phrase d'Éric Woerth, c'est « il faut donner la liberté à chacun ». C'est vraiment une posture politique et libérale, ce qui va dans le sens effectivement des courants de son mouvement, de ce qu'est Monsieur Woerth. C'est effectivement la liberté de chacun, le libéralisme, faire démarrer l'économie, la priorité. Après, le social suivra. Donc c'est une posture, il ne peut pas être dans une autre posture finalement. C'est une posture politique, c'est une posture libérale, et il n'est pas le seul évidemment à le penser. Néanmoins, on le verra d'ailleurs plus tard dans notre débat, c'est que il va y avoir là un combat gauche-droite, et même au sein même de partis politiques, de savoir si quel choix de société on souhaite faire après ce confinement.
Posture Alexandre Falipou ou urgence? Après tout, il y a 12 millions de salariés au chômage partiel aujourd'hui.
Alors oui, il y a une urgence, mais il y a aussi une urgence sanitaire, et ça n'aura échappé à personne. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est quand même que les Républicains, en fait, à nouveau, enfin vraiment une fois de plus, il y a un problème. La réponse à ces problèmes, c'est les 35 heures, il faut mettre fin aux 35 heures, et l'ouverture le dimanche. En tout cas pour les républicains les plus libéraux, pas pour les républicains plus chrétiens. Voilà, je trouve juste un peu dommage, justement, au moment où tous nos repères sont bousculés, qu'il n'y ait pas de nouvelles voix qui émergent, de nouvelles idées, de nouvelles propositions que l'ouverture le dimanche et les 35 heures. Après, le problème économique, effectivement, on l'a tous en tête, et ça ne servira à rien de mourir guéri. Donc il ne faudrait pas que le remède du confinement soit plus dur que le mal. Donc oui, c'est vraiment un arbitrage qu'il faut faire en permanence. Je trouve dommage que ça soit toujours les 35 heures et le dimanche qui viennent. Je pense qu'il pourrait être un peu plus innovant.
Ne pas mourir guéri, vous nous dites, Alexandre Falipou. Chloé Morin, c'est une urgence. Je repose la question, parce qu'après tout, si l'on reporte au-delà du 1er juin les mesures de chômage partiel, ce pays reste à l'arrêt et l'addition s'allonge.
Non, moi je suis déjà j'ai aussi l'impression que en fait cette crise permet à certains, quel que soit le bord politique d'ailleurs, de ressortir les vieilles idées, enfin d'essayer de nous refourguer les vieilles idées qu'ils avaient pas réussi à mettre en place avant. Donc il y a une impression de manque d'inventivité. Ensuite, j'ai quand même l'impression que la plupart des fédérations de commerçants défendent pas forcément cette idée. Le vrai problème, enfin il y a deux problèmes. D'abord, le travail du dimanche, on l'oublie souvent, mais ça coûte cher. C'est-à-dire que c'est des heures supplémentaires, même si elles sont désocialisées et défiscalisées depuis les gilets jaunes, ça reste un coût. Ça reste payé plus que les heures normales. C'est sur la base souvent du volontariat. Ça induit des jours de récupération, donc c'est pas neutre, c'est pas des jours comme les autres pour les commerçants. Donc on s'est pas dit qu'ils aient intérêt à le faire. Et ensuite, la question, c'est que aujourd'hui, il y a plein de salariés qui n'ont pas repris. Et qui n'ont pas repris, pas seulement parce qu'il n'y a pas assez d'activités, mais aussi parce qu'il y en a plein qui gardent leurs enfants à la maison. Et donc, quand vous n'avez pas des équipes complètes dans un commerce, vous n'arrivez déjà pas probablement à ouvrir à plein la semaine. Je vois pas. Enfin, je comprends la logique de travailler le dimanche, mais le problème urgent là, c'est plutôt, à mon sens, que tout le monde puisse revenir travailler.
Stéphane Vernet, il va falloir quand même peut-être prendre des mesures un peu musclées ou un peu innovantes pour redémarrer ce pays.
Alors qu'il faille prendre des mesures innovantes pour redémarrer ce pays, sûrement. Est-ce que ouvrir les commerces le dimanche en est une? Je suis pas certain. Je partage les interrogations de Chloé Morin. Je pense que, en fait, on n'est pas certain du tout que le fait d'ouvrir les magasins, les commerces le dimanche ou les jours fériés.
Il y avait l'idée sous-jacente d'écouler les stocks, les invendus. Il y avait ça derrière aussi, hein.
Oui, mais je suis pas certain que l'ouverture le dimanche provoque un surcroît de fréquentation. Je suis pas sûr qu'il y a un effet mécanique. Moi, j'ai un doute par rapport à ça. Par contre, je vois bien les inconvénients que ça peut poser. Et puis, le fait, si vous voulez, qu'on s'inscrit aussi dans une il y a une tentation de prendre une série de mesures au titre de la relance de l'économie qui pourrait avoir des impacts particulièrement négatifs, à mon avis, sur le social. Et je pense que ça nécessite une vraie réflexion. Donc, pour moi, c'est pas une urgence, ou en tout
cas, on a des petites sautes, hein, dans la transmission, mais ça va. On a bien compris votre argumentaire, Stéphane Vernet. C'est peut-être pas là que se situe forcément nécessairement en l'urgence. 20h20 sur France Info. C'est l'heure de l'info, le fil info. Claire Breguet-Lamarre.
Un coup de pouce de 200 euros sur le salaire des soignants, proposition phare d'un groupe de 66 députés issus de différents partis. Ils signent un programme pour le monde d'après, un monde qu'ils voudraient plus écologique et plus social. Sur le plan sanitaire, un bilan plutôt encourageant ce soir, car si le cap des 27 000 victimes est franchi, le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Il va y avoir plus de contrôle sur les entreprises qui font des demandes de chômage partiel pour leurs salariés. Le gouvernement veut détecter d'éventuelles fraudes. Après la Bretagne, la Vendée, la Loire-Atlantique, les plages normandes et méditerranéennes pourraient rouvrir à leur tour les plages ce week-end. Aujourd'hui à la Baule, par exemple, des chanceux ont pu à nouveau tremper leurs pieds dans l'eau. À Paris, les grands magasins restent fermés jusqu'au 10 juillet. Ce sera le cas de tous les centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés de l'Île-de-France. Les syndicats s'inquiètent des conséquences sur l'emploi. Les locations touristiques à nouveau ouvertes en Ardèche, selon nos confrères de France Bleu. Chambres d'hôtel, meublées également. Une seule condition, habiter à moins de 100 km à vol d'oiseau du lieu de la location. Et puis une vingtaine de routes toujours fermées dans les Landes. La commune de Tartas notamment a les pieds dans l'eau. Le département est toujours en alerte orange aux inondations jusqu'à demain après-midi selon Météo France.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
C'est un petit peu l'annonce du jour, hein, le président de la République qui veut honorer les soignants et tous ceux qui se sont engagés contre le Covid-19, hommage le 14 juillet, promotion unique de la Légion d'honneur qui leur sera donc dédiée le 1er janvier prochain. Annonce faite à l'issue du Conseil des ministres, des gestes de reconnaissance qui n'ont fait bien ni chaud ni froid à Jacques Schmitt, médecin et urgentiste à Mulhouse, en première ligne face au virus. Il s'est exprimé sur France Info.
Très honnêtement, ça fait ni chaud ni froid.
Quand on voit certaines personnes qui reçoivent la Légion d'honneur, sont à mon avis pas plus méritants que des soignants qui travaillent toute l'année. Donc en soi, ce sera un remerciement qui sera effectivement par rapport aux efforts fournis pendant cette crise. Mais à l'issue de ça, ce sera oublié. Je pense que les soignants qui sont déjà de toute façon en grève au niveau des urgences depuis plus d'un an, ils attendent un peu autre chose qu'une médaille. La seule reconnaissance, elle vient du patient qui est guéri et qui va mieux. Moi, je préférais plutôt que du gouvernement, les efforts qu'ils ont été capables de mettre en place uniquement pour la crise soit plutôt poursuivi au-delà de la crise. C'est beaucoup plus intéressant que des médailles. Parce qu'une fois que la crise sera finie, je veux dire, la situation hospitalière, elle redeviendra comme ce qu'elle était avant et catastrophique.
André Goutard, vous entendez ce que dit ce médecin urgentiste. Les médailles, c'est la bonne idée ? Ou le 14 juillet ?
Il y a d'abord un symbole. C'est lorsqu'il y a eu cette terrible période des attentats, des policiers ont été récompensés de la même manière.
Enfin,
honorés, pardon. Excusez-moi, c'est la bonne réflexion. Voilà, honorés de la même manière. Donc, cette fois-ci, effectivement, ceux qui étaient au front, ce sont les personnels soignants. Donc, qu'ils soient honorés à leur tour, ça n'est pas illogique, en tout cas. Après, chacun prend ça à titre personnel de façon honorifique et est honoré ou ne l'est pas. La deuxième point, c'est effectivement ce que dit évidemment ce médecin qu'on vient d'entendre, c'est que avant toute chose et depuis un an, les personnels soignants attendaient une valorisation de leur travail. Et cette valorisation, aujourd'hui dans nos sociétés capitalistes, eh bien ça se passe par des primes, des augmentations de salaire jusqu'à 1500 euros ont été ou de 500 à 1500 euros ont été promis par le président. Voilà, ils attendent ça avant toute chose, évidemment. Mais l'un peut aller avec l'autre. Voilà.
Avec Chloé Morin, vous pensez que le pays, dont on dit qu'il est partagé entre une forme d'inquiétude, de colère aussi, est sensible à ses honneurs ?
Moi, je pense que, j'ai trouvé la dimension historique, en tout cas, de cette médaille qu'ils sont allés rechercher au fin fond de l'histoire des pandémies. Je crois que c'était la peste, il me semble, ou je sais plus quoi. J'ai trouvé la dimension historique intéressante, mais enfin, l'essentiel. Des demandes des soignants depuis plus d'un an maintenant, ça n'est pas d'avoir plus de congés que par ailleurs ils ne peuvent pas prendre dans une période de plan blanc. Faut quand même le savoir, ça sert à rien d'avoir des congés si vous pouvez de toute façon pas les prendre. Mais c'est plutôt d'avoir une revalorisation des carrières et une revalorisation salariale. Ce qui est craint par ces soignants, c'est que finalement la fenêtre de l'empathie nationale se referme à l'été, et que on les oublie ou qu'on évacue un peu vite l'ensemble des promesses qui leur ont été faites. Je pense que c'est ça l'inquiétude. Et c'est vrai que une médaille, c'est bien, mais la solidarité nationale via les jours de congé, mais c'est vraiment pas le cœur du sujet. Ça peut donner le sentiment d'être un écran de fumée. Donc il faudra voir ce que le gouvernement compte faire réellement sur ce sujet, quoi.
Qu'est-ce qu'on dit à l'Obs, Alexandre Falipou, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, il faut rendre hommage quand même, c'est pas inutile. Une question.
C'est pas inutile, c'est effectivement pas ce qu'ils attendent. C'est-à-dire que le soldat, pour reprendre la métaphore des médailles, le soldat, il attend qu'on lui donne des armes pour se battre. Il attend pas forcément une médaille une fois qu'il est parti au front. Je me souviens d'un témoignage d'une aide-soignante qui disait, vous savez, excusez-moi, les aléas du
génial.
Confinement.
Alexandre Falipou avec sa petite fille, j'imagine, qui vient nous saluer en direct sur France Info. C'est absolument génial. J'adore Alexandre Falipou. Poursuivez.
C'est le plus merveilleux des aléas de confinement.
Oui, non,
ce que je disais, c'est la soignante, elle disait, c'est très bien que tout le monde nous applaudisse à 20h, mais on préférerait que vous sortiez pas prendre un apéro. Et je crois que c'est un peu la même chose là. On n'a pas forcément besoin des honneurs. C'est notre travail de le faire. Ce dont on a besoin, c'est faire notre travail dans de bonnes conditions, avoir une rémunération décente. Donc, moi, je trouve qu'en termes de communication politique, en tout cas, C'était très bien et c'est une très bonne initiative. Et effectivement, le côté historique que j'ignorais est vraiment bien. Mais je trouve que c'est pas le bon moment. C'est-à-dire, il aurait fallu l'annoncer dans un package avec non pas des primes, mais des augmentations et surtout avec un plan pour l'hôpital décent. Et là, effectivement, la cerise sur le gâteau, ça aurait été ça. Mais là, on a la cerise, mais pas le gâteau.
On a la cerise et pas le gâteau. Vous avez le sens de la formule ce soir. Alexandre Philippou, Stéphane Verrier, vous partagez son avis?
Oui, il y a trois choses. C'est-à-dire le président de la République a lancé un plan massif de revalorisation de l'hôpital le 25 mars. Le truc, c'est que dans ce plan, il y a plusieurs choses. Il y a le symbolique et le matériel. Dans le matériel, vous avez les primes. Celles-ci, elles ont été décidées, elles vont arriver.
Ah, on a une petite perte avec vous, Stéphane Vernet. On ne vous entend plus. Nous vous avons perdu. Un petit problème de liaison. Je reviens vers vous, Audrey Goutard. Apparemment, on va dire juste un mot rapide. Hein. C'est une bonne idée, mais c'est peu mieux faire. C'est ce qu'on entend ce soir, finalement. Hein.
Ça peut être l'un et l'autre, mais il faut que l'autre soit là aussi.
Allez, il faut les deux, c'est la bonne formule. Et il est quasiment 20h28 sur France Info, nous allons marquer une pause et nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la deuxième partie de ces informés de France Info.
France Info, partout avec vous. Les écoles qui rouvrent.
On a bien entendu que le choix revenait aux parents de laisser ou non leurs enfants aller à l'école.
L'organisation au travail.
Il y a beaucoup de gens qui voient plus d'intérêt à venir s'entasser dans un open space. Avec la crise sanitaire, ça devient inacceptable.
Les transports.
L'enjeu, c'est que les gens n'interagissent pas, ne se touchent pas en se croisant, en montant, en descendant dans les stations, les trams et les bus.
Et vous, comment faites-vous?
Ah oui, moi j'ai qu'une hâte, c'est pouvoir revoir mes amis.
À tout instant, à la radio, à la télé, sur le site, l'application et les réseaux sociaux. France Info, partout avec vous.
C'est l'heure de la météo, le rappel des prévisions avec vous, Sébastien Léas de Météo France.
Les pluies localement soutenues et orageuses qui s'étendent entre le Haut-Languedoc et le Jura vont progressivement s'estomper au fil de la nuit. Et demain matin, seules quelques pluies faibles et intermittentes se feront encore remarquer du Gard et de l'Ardèche au centre-est. Au fil des heures, les conditions vont à nouveau se dégrader sur le sud du pays et des pluies et des orages sont à craindre entre les Pyrénées et le sud du Massif central dès la mi-journée. La dégradation concernera un peu plus tardivement le pourtour méditerranéen. En Provence, c'est même en deuxième partie d'après-midi et en soirée que les averses et les orages éclateront. Localement, les orages pourront même être forts, y compris durant la nuit, en particulier entre la Côte d'Azur et le sud des Alpes. Sur une large moitié nord, la journée de demain s'annonce nettement plus calme. Le soleil fera de belles apparitions. Le ciel sera même dégagé demain après-midi au nord de la Loire jusqu'au Hauts-de-France. Les températures maximales seront comprises entre 11 et 22 degrés des côtes de la Manche aux plages de la Méditerranée avec jusqu'à 24-25 degrés sous les éclaircies de la Corse.
h 30 sur France Info, l'info avec vous. Bonsoir François Lepage.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. La vie sociale redémarre timidement en France au troisième jour de déconfinement. Emmanuel Macron affiche un optimisme prudent cet après-midi. Le président a fait le point avec les préfets de région et les directeurs d'agences régionales de santé. Le chef de l'État s'engage à corriger, dit-il, constamment le tir si des mesures ne fonctionnent pas. Alors que la France a franchi la barre des 27 000 morts ce soir depuis le début de l'épidémie, 83 décès supplémentaires enregistrés en 24 heures, c'est nettement moins que les deux jours précédents. La pression sur les services d'urgence continue également de décroître, avec moins de 2500 patients en réanimation pour la première fois depuis le 24 mars. Elle était attendue, la réouverture de certaines plages, effective depuis ce matin sur la façade atlantique, notamment des plages en mode actif pour se baigner, courir ou se livrer à toute activité dynamique. Pas question en revanche de s'asseoir, de s'allonger et encore moins de pique-niquer pour éviter les attroupements comme ceux constatés notamment dans certains de quartier de Paris ces dernières 48 heures. Les Parisiens, eux, qui ne pourront pas retrouver tout de suite leurs parcs et jardins, malgré un nouvel appel de la maire Anne Hidalgo, le gouvernement refuse toujours devant la circulation toujours active du virus en Île-de-France. Des questions se posent aussi pour la saison estivale. Bruxelles incite les pays de l'Union à rouvrir leurs frontières intérieures pour sauver le secteur du tourisme. L'Allemagne et la France ont prévu de rouvrir leurs frontières à partir du 15 juin, mais d'ici là, les restrictions de déplacement restent reste en vigueur. Seuls quelques postes frontières vont rouvrir dès vendredi sous contrôle pour faciliter la vie des frontaliers. Des groupes de 10 maximum, le sanctuaire de Lourdes lui rouvrira partiellement ses portes samedi pour les pèlerins individuels et de proximité. Ils devront porter des masques. En revanche, la grotte, elle, ne sera pas accessible aux visiteurs. Et puis après un long parcours chaotique, le Parlement a adopté définitivement ce soir la loi de lutte contre la haine en ligne portée par la députée LAREM Laetitia Avia. Il s'agit de mettre fin à l'impunité de tous les auteurs de contenus haineux, violents ou à caractère raciste. La haine en ligne a augmenté durant ce confinement. Un texte jugé liberticide par ses détracteurs. Plusieurs jugent aussi ces dispositions inefficaces sans régulation européenne. 20h32 sur France Info, la suite des informés. C'est avec Jean-François Aquili.
20h21, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie avec Audrey Goutard, journaliste sur France 2, présentatrice de Ligne Directe sur France Info, le canal 27, avec Chloé Morin, politologue associée à la Fondation Jean Jaurès, avec Alexandre Falipou, directeur numérique de l'Obs, assisté de sa petite fille qui est venue nous saluer en direct dans la première partie des informés de France Info, et avec vous Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Je sais que vous avez quelques petites difficultés de liaison, rassurez-vous, à chaque fois nous volerons à votre secours. Alors nous évoquons à présent ce qui se passe à l'Assemblée nationale et pas seulement en coulisses. Premier texte de l'après-Covid-19 adopté ce soir, François Lepage l'évoquait à l'instant, celui porté par la députée La République En Marche de Paris, Laetitia Avia, contre les contenus haineux sur Internet. Franchement, Chloé Morin, il y avait urgence à traiter cette proposition de loi en priorité.
Oui, alors il faut rappeler que donc cette proposition de loi, elle achève son parcours au Parlement avec une dernière lecture à l'Assemblée, puisque le Sénat l'avait quasiment complètement détricoté. Donc là, c'est la dernière lecture. Il y a un certain nombre de dispositions dans cette loi qui visent à lutter contre les contenus illicites et haineux. Je cite, c'est les contenus manifestement illicites. Et elle contient notamment l'obligation pour les plateformes de retirer ces contenus sous 24 heures. Donc, c'est-à-dire Facebook ou Twitter aurait cette obligation, sauf à encourir une amende qui peut aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires, ce qui est très conséquent. On peut se dire, finalement, on sort d'une période de confinement où on a vu circuler beaucoup de fake news, beaucoup de contenus plus ou moins douteux.
Oui, c'est donc d'actualité, quoi. Oui.
Et on se dit, bon, c'est de bon sens que de lutter contre ça. Le problème, c'est que cette loi, du point de vue des spécialistes, pose un grand nombre de questions, notamment sur son applicabilité. Elle risque aussi de laisser la police décider de ce qui peut être censuré ou pas. Donc là aussi, ça pose un problème dans un état de droit. Et puis, ça peut amener les plateformes finalement à sortir, à faire ceinture et bretelles, à se dire bon, on va pas risquer une amende majeure en laissant passer des contenus dont on ne sait pas s'ils sont douteux ou pas, et on va tout censurer. Et donc évidemment, ça peut atteindre la liberté d'expression.
Audrey Goutard, vous n'êtes pas d'accord, je vois.
Oui. Non, je suis d'accord sur le fond. Je voulais sur juste fond, apporter une précision importante. C'est à mon avis, c'est que dans cette loi, la fameuse loi Avia, ce qui est important, c'est la responsabilisation des plateformes. En fait, c'est de dire, en gros, la police ne fait pas le boulot. C'est aux plateformes d'abord d'intervenir. Et si les plateformes n'interviennent pas, elles payeront cher. Alors, c'est vrai que je trouve que ce point est tout à fait intéressant pour avoir beaucoup travaillé là-dessus en matière de terrorisme ou de pédophilie, puisqu'effectivement, les États avaient un mal fou à imposer aux plateformes jusque-là de faire disparaître les contenus illicites. Donc là, les contenus devraient disparaître en 24 heures, sinon la plateforme est punie.
Vous dites quoi? C'est bien ou c'est pas bien?
Donc, alors, je dis simplement, ça, c'est un point positif, mais c'est considérer qu'effectivement, la police ne fait pas le boulot, que la plateforme, c'est à elle de faire ce travail-là. Donc, quels que soient les propos, puisque c'est effectivement, à partir du moment où ils sont insultants, injurieux, carrément illicites. Mais il faut savoir, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que Facebook qui a un espèce de groupe de sages, qui a créé un groupe de sages d'une vingtaine de membres pour surveiller, un conseil de surveillance qui sera évidemment mise à l'œuvre là. Dans ce conseil de surveillance, vous avez des gens qui sont très critiqués, et notamment une personne qui est proche des frères musulmans. Donc, si vous voulez, ceux qui vont aujourd'hui décider de retirer un contenu, ça va être les plateformes au travers de leur conseil de surveillance, et ça ne sera plus l'État.
Alexandre Falipou, vous qui êtes le monsieur numérique, hein, directeur numérique de l'Obs, vous diriez, pour poursuivre ce qui a été dit par Chloé Morin et Audrey Goutard, que ce texte va dans le bon sens. Pourtant, il est jugé liberticide par un grand nombre de personnes qui utilisent les réseaux sociaux.
Oui, mais comme il y a beaucoup de choses ces dernières années qui sont à la fois protectrices et liberticides, comme on l'a vu avec le confinement, qui est une partie liberticide, l'interdiction des manifestations qu'on a vu, l'état d'urgence, etc. Il y a vraiment des questions sur où s'arrête la liberté. Moi, je remarque que les plateformes, donc c'est vrai qu'elles se sont exonérées pendant très 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 longtemps et encore aujourd'hui des contenus parce qu'elles seraient incapables, parce qu'elles savent pas concrètement comment faire pour retirer en 24 heures. En fait, il y a deux solutions, c'est soit des algorithmes qui vont aller chercher, soit ça va être le nombre de personnes qui cliquent sur le bouton attention signaler. Ce que je remarque, c'est que sur Facebook aujourd'hui, si vous mettez une photo d'une mère en train d'allaiter son enfant, une photo de sein sur Facebook, elle sera censurée. Et ça, il y a aucune loi qui l'interdit pourtant.
D'accord. Donc il y a eu des prédispositions prises bien avant la loi. Je rappelle au passage que Laetitia Avia, mise en cause par Mediapart pour des propos jugés sexistes, homophobes, racistes à l'origine du texte, dont Laetitia Avia a annoncé qu'elle allait porter plainte en diffamation. Elle parle, elle, d'accusations mensongères et de manipulation. Stéphane Vernet, je me rappelle, lors de la crise des Gilets jaunes, vous aviez poussé un coup de gueule sur Twitter. J'en ai un souvenir assez ému. Vous parliez de poubelle à l'époque. Logiquement, du coup, ce type de décision, pour vous, va dans le bon sens, parce que vous trouviez que ça allait trop loin, désormais, sur les réseaux sociaux.
Non, mais...
Dans le n'importe quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un côté défouloir, café du commerce, qui pose problème, où tout n'importe qui dit n'importe quoi en permanence, et effectivement, il y a un besoin de régulation. Après, quelle est la meilleure façon de le faire ? Là, la question est beaucoup plus compliquée, avec effectivement un risque d'atteinte aux libertés. Il faut que la liberté d'expression puisse demeurer. Après, il y a un certain nombre de choses qui sont interdites et qui fleurissent sur les réseaux sociaux sans qu'on arrive à y mettre le holà. C'est là-dessus qu'il y a un souci. Moi, je vous rappelle qu'il y a, par exemple, en matière de droit de la presse, quand vous êtes éditeur de contenu, vous êtes responsable de tout ce que vous publiez. Or, le problème, c'est que les plateformes s'en sont totalement exonérées en prétextant que ça n'était pas possible. Et là, il y a un problème. Il faudrait qu'elles soient co-responsables de tout ce qui est publié et qu'elles interviennent pour effectivement enlever les contenus qui posent problème. Après, si ça se fait à partir d'algorithmes, de logiciels, et que ça se fait n'importe comment, tel que vient de décrire Alexandre Falipou, effectivement, ça devient aussi un problème. Je pense qu'il n'y a pas de bonne mesure. En tout cas, c'est très difficile de placer le curseur au bon endroit.
Et nous verrons donc, Chloé Morin, un dernier mot là-dessus, nous verrons donc à l'usage de l'efficacité ou pas de cette proposition de loi finalement.
Oui, mais c'est dommage parce qu'en fait, il y a un consensus dans l'opinion pour faire quelque chose sur le sujet. C'est dommage de pas, sur un tel sujet, de pas avoir justement cherché à rassembler. On parlera peut-être tout à l'heure de l'idée de majorité de projet qui ressurgit du côté de la majorité, justement. C'est dommage sur certains sujets comme ça de pas chercher à prendre le temps d'avoir une approche qui soit consensuelle. Et là, elle ne l'est pas. Clairement, elle ne l'est pas.
20h40 sur France Info, c'est le retour du Fait l'Info. Mais avec vous, François Lepage.
Le gouvernement va renforcer le contrôle sur les demandes de chômage partiel pour détecter les fraudes ou les erreurs. Depuis mars, plus d'un million d'entreprises ont demandé une autorisation d'activité partielle avec le coronavirus. Cela concerne près de 12,5 millions de salariés. La ministre du Travail veut maintenant accompagner la décrue avec une réduction progressive de la prise en charge par l'État. Ils ont encore été applaudis comme chaque soir par les Français. Un hommage sera rendu le 14 juillet à tous les personnels engagés dans la lutte contre le coronavirus dans tous les domaines d'activité. d'activité. Certains en pointe dans cette lutte contre la pandémie seront aussi récompensés symboliquement le 1er janvier prochain. Une promotion unique de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Quant à la prime pour le personnel hospitalier, elle sera versée sur les paies de mai ou de juin. Les personnels des 40 départements les plus touchés recevront le montant maximal, à savoir 1500 euros. La France a franchi ce soir la barre des 27 000 morts dues à l'épidémie, avec 83 décès supplémentaires enregistrés en 24 heures. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser, moins de 2500 désormais, pour la première fois depuis le 24 mars. Les agriculteurs français sont pressés d'accueillir des saisonniers étrangers. La pénurie de main-d'œuvre s'aggrave à l'approche de la pleine saison des récoltes. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a mis en place des dérogations supplémentaires pour franchir les frontières. Mais le processus tarde à se concrétiser. Lundi dernier, 200 saisonniers espagnols ont été refoulés à la frontière dans les Pyrénées-Orientales.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Killy.
L'Assemblée nationale, mais côté coulisses, hein, cette fois un 9e groupe constitué par des marcheurs dissidents va-t-il voir le jour ? Ce serait un contresens politique, a estimé Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, interrogée sur cette menace-là qui pèse sur la majorité au sortir du Conseil des ministres.
Si tel était le cas, je ne peux que regretter que le ferment de la division soit à l'œuvre dans une période, je vous le dis et je vous le répète, qui est absolument exceptionnelle. Alors même que nous aurons des discussions à avoir à l'intérieur de la majorité, évidemment, sur ce que sera la fin du quinquennat et sur la manière dont nous relancerons l'activité dans notre pays, sur les réponses que nous aurons à apporter dans la suite de cette crise. Il m'apparaît donc que c'est véritablement là un contre-temps, pour ne pas dire un contre-sens politique.
Chloé Morin, il y a une menace réelle, hein, sur la majorité ?
Moi, je trouve déjà que c'est un gros problème que l'exécutif commente la vie du Parlement. Alors, c'est vrai que depuis l'inversion du calendrier électoral entre législative et présidentielle, tout découle du président, mais quand même, enfin, il y a une séparation des pouvoirs et ça n'est pas sain, même si c'est la majorité dont, enfin, je trouve que ça n'est pas sain. Et d'ailleurs, c'est un constat d'échec quelque part pour la majorité qui n'a pas su vraisemblablement faire vivre différentes sensibilités au sein de son groupe. Aujourd'hui encore, il y a eu, je crois, un député LREM qui a quitté le groupe, donc ce qui fait que le groupe est à 289 députés à ce jour, ce qui est très exactement la majorité absolue. Donc ça veut dire que s'il y en a un qui part en plus, ils la perdront. On sait qu'ils ont l'appui des parlementaires du MoDem d'un côté et de Agir de l'autre pour passer leur loi.
Oui, il y a des forces d'appoint, hein, pour voter les textes de façon majoritaire malgré un éventuel départ de marcheurs. Mais Stéphane Vernet, c'est réel ? Il y a une sorte de dissidence qui se dessine là ?
Alors, c'est un serpent de mer depuis le début du quinquennat. En fait, c'est aussi parce que c'est lié au fait que les marcheurs se sont réunis autour d'un homme qui est Emmanuel Macron, mais le projet ou les sensibilités sont pas forcément les mêmes. Et au fur et à mesure que le temps s'écoule, cette fidélité-là, elle est mise à l'épreuve d'intérêts ou d'objectifs divergents qui s'expriment de plus en plus. Mais encore une fois, c'est un serpent de mer. Alors, ils étaient 314 en juin, ils ont été jusqu'à 314 au sein du groupe en juin 2017 avec les apparentés. Aujourd'hui, ils sont à 289. Alors, c'est Olivier Gaillard qui est parti ce jour, mais Olivier Gaillard, il est parti parce qu'il a été élu maire, en fait. Donc, il a démissionné, il quitte le groupe et il sera remplacé vraisemblablement par sa suppléante. Donc, il reste 290 députés marcheurs, plus 6 apparentés, ça fait 296. Il garde très largement la majorité absolue à 289. Et même s'il passait en dessous des 289, s'il perdait la majorité absolue, effectivement, il y a 47 députés MoDem sur lesquels ils peuvent compter. Vous avez 28 députés Agir, UDI, ils peuvent compter sur une partie des voix. Donc même s'il perdait la majorité absolue, il garderait, ou la majorité présidentielle garderait la main sur l'Assemblée nationale. Donc cette création d'un nouveau groupe pourrait renforcer l'idée qu'il y a une volonté de la part des LREM de faire une autre politique, oui, mais ça leur ça remettrait pas, ça créerait pas une bascule du pouvoir. Ça. Moi, j'y crois pas à ça.
Donc vous dites Stéphane Vernier,
il perdrait pas la majorité en fait.
Stéphane Vernier, vous dites même pas mal. Il y a quand même une question de fond, on va dire, sur le corpus des idées, on va dire, soutenues par les uns et les autres. Une soixantaine de parlementaires qui ont publié cette tribune forte d'une trentaine de propositions pour le jour d'après. On y vient, vous voyez, la crise du coronavirus. Or, il est question de revaloriser les salaires des soignants, d'une rénovation énergétique, du revenu universel. Parmi les signataires, écoutez ce que disait Paola Fortezza. C'est une députée ex-La République En Marche des Français de l'étranger sur France Info.
La crise nous a ouvert les yeux sur certaines choses, sur l'état de l'hôpital public, sur le manque de gratification salariale de certaines professions comme les infirmières, comme les soignants. On a aussi expérimenté pendant ce confinement le télétravail. On a pu se rendre compte que ça peut être efficace. Donc vraiment, c'est un contexte qui a inspiré, qui a déclenché certaines nouvelles demandes de la part de la population.
Vous diriez qu'il y a urgence de la part du pouvoir, Emmanuel Macron, son Premier ministre, la majorité, peut-être de reprendre pied dans le débat d'idées, les propositions, le monde d'après, on va l'évoquer tout à l'heure, c'est dans un instant, c'est un peu la une de l'Obs, c'est même beaucoup, c'est la une de l'Obs cette semaine. Il y a une forme de séparation qui s'opère dans les rangs de la majorité aujourd'hui. Alexandre Falipo.
Ah, d'accord. Oui. je crois que les sensibilités, elles ont toujours été là. Après, elles ont jamais réussi à se cristalliser parce que, contrairement à par exemple sous le quinquennat de François Hollande, c'était très clair. Il y avait l'aile gauche qui du coup pouvait se cristalliser et on pouvait avoir du coup une catégorie de frondeurs. Là, comme c'est beaucoup plus hétéroclite, par définition, ce sont des gens qui se sont réunis autour non pas d'idées ou d'une motion, mais autour de Emmanuel Macron, autour juste d'une personne. En fait, on a des fuites, on a comme un gâteau en fait qui se casse pas en deux, mais qui s'émiette. Alors il y a des petites miettes, mais ça fait pas une fracture nette. Et la question que je me pose, j'ai absolument pas la réponse, mais pour que ça se cristallise et que ça fasse vraiment un groupe, ce fameux neuvième groupe, ou en tout cas que ça soit suffisamment important pour infléchir la politique du gouvernement qui est beaucoup trop à droite pour certains, il faudrait d'abord un leader. Est-ce qu'il y en a un? J'en vois pas pour l'instant se dégager, mais ça peut arriver. Et deuxièmement, est-ce que la période est favorable? Là, oui, en revanche, parce que avec ce qu'on est en train de vivre, clairement, le logiciel de Macron ne fonctionne plus, le logiciel libéral ne fonctionne plus comme il devait fonctionner, et du coup, ça ouvre la voie à d'autres choses.
Audrey Goutard, vous diriez que nous assistons là à quelque chose de l'ordre de la fracture de cette République en marche, ou bien c'est une période qui est propice à l'émission d'idées tous azimuts?
On sent même avant cette crise, on a senti que c'est un jeune parti, tout jeune parti, qui connaît une croissance, finalement assez traditionnelle. C'est-à-dire que c'est une croissance. Au départ, tout le monde se fédère autour d'un homme. Ensuite, effectivement, des mouvements se créent. On a vu avec Mathieu Orphelin, on a vu cette aspiration d'une certaine partie de la République en marche à aller vers le social, plus de social, plus d'environnement, d'écologie, d'environnement, etc. Et donc, c'est la crise de croissance, la crise d'adolescence de tout parti. Et ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce qu'on entend dans les propos d'Emmanuel Macron, oui, c'est que il faut de nouveau fédérer, il faut de nouveau transcender pour que le parti arrive à avancer. Mais je ne crois pas qu'il avancera comme lors des élections présidentielles d'un seul homme. Il avancera avec ses fractures, avec ses mouvements, avec ses tensions que l'on rencontre finalement dans tous les partis politiques.
Allez, nous allons rester sur ces questions du monde d'après, finalement, de cette façon de voir comment pourrait évoluer notre société quand nous sortirons peut-être un jour de cette épidémie de coronavirus. 20h50 sur France Info, le fil info, le retour avec vous, François Lepage.
Emmanuel Macron fait preuve d'un optimisme prudent ce troisième jour de déconfinement. La voie suivie est la bonne, mais il est encore trop tôt pour crier victoire, avertit le chef de l'État. La France a franchi ce soir la barre des 27 000 morts depuis le début de l'épidémie. 83 décès supplémentaires enregistrés en 24 heures, c'est nettement moins que les deux jours précédents. La pression sur les services d'urgence continue également de décroître avec moins de 2500 patients en réanimation pour la première fois depuis le 24 mars. L'attention de l'exécutif se tourne désormais vers le week-end de la Pentecôte, le 1er juin, pour tirer un bilan plus complet et passer à une deuxième phase. Cet après-midi, le président a aussi fait le point au ministère de l'Intérieur avec les préfets de région et les directeurs des agences régionales de santé. Des questions se posent aussi pour la saison estivale. Bruxelles incite les pays de l'Union à rouvrir leurs frontières intérieures pour sauver le secteur du tourisme. L'Allemagne et la France ont prévu de rouvrir leurs frontières à partir du 15 juin, mais d'ici là, les restrictions de déplacement restent en vigueur. Seuls quelques postes frontières vont rouvrir dès vendredi sous contrôle pour faciliter la vie des frontaliers. Les conséquences économiques du virus sont multiples. Ainsi, les soignants libéraux sont plus de 100 000 à avoir demandé l'aide financière de l'assurance maladie pour compenser des pertes d'activité. Médecins, dentistes, kinés, orthophonistes, selon le directeur de la Sécu, le montant des versements pourrait dépasser les 400 millions d'euros.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Je rebondis, Chloé Morin, sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, un Emmanuel Macron, allez, en quelque sorte, en caisse de dépassement. Vous disiez que le chef de l'État était à la recherche d'une majorité de projets pour la fin du quinquennat.
Oui, il se retrouve dans une situation où manifestement la crise qui vient, enfin une grande partie de la crise est devant nous, hein, de la crise sanitaire peut-être, et en tout cas de la crise économique, et où il faut unir autant que possible pour reconstruire. Or, on sait très bien que à deux ans de la prochaine élection présidentielle, c'est très compliqué d'aller chercher d'attirer des forces politiques qui ne veulent pas servir de béquille à un pouvoir qui, faut l'avouer,
ça marche plus, ça. Hein. Ça ne marche plus aujourd'hui, ça.
Bah, disons que c'est pas que ça ne marche plus, mais c'est plus facile de le faire quand vous êtes populaire et que vous venez d'être élu que lorsque vous êtes plutôt impopulaire, voire très impopulaire, et que vos rivaux aiguisent leur couteau en se disant c'est moi qui serai le prochain président de la République. C'est ça la difficulté aussi. C'est pourquoi est-ce que les oppositions auraient intérêt aujourd'hui à venir au secours d'un navire dont ils considèrent qu'il est en train de couler. Donc l'enjeu, c'est d'unir le pays, et peut-être qu'une des manières de le faire, c'est effectivement de pas chercher une union nationale qui serait probablement impossible à construire, mais de se fixer des combats communs, en fait. C'est alors, de dire justement, ici on peut voter avec la droite sur certaines mesures, et ici on peut aller convaincre la gauche sur certaines mesures.
Alexandre Falipou, ça va donc se jouer, si j'en crois Chloé Morin, sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. C'est la une de l'Obs hein, cette semaine. Au fond, définir à travers des projets concrets, très, très réels, hein, le monde d'après.
Oui, exactement. L'Obs est parti d'un texte très intéressant du philosophe Bruno Latour, justement, qui a posé ce questionnaire simple et qu'on a encore simplifié sur, pour faire, très, très simplement, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on jette. Et ça, on a demandé à 25 personnalités tous azimuts, que ce soit Thomas Piketty, Olivier Rollinger, le chef étoilé, Catherine Jacobsdottir, la première ministre d'Islande, Laurent Berger, Nicolas Hulot, Valérie Pécresse, Nicolas Mathieu, prix Goncourt. On leur a demandé un peu, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous jetez. Et parce que moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans la période actuelle, c'est qu'il se passe plein de choses. Si on nous avait demandé il y a deux mois, et moi le premier, on aurait répondu, non, c'est pas possible. Rester chez soi comme ça, c'est pas possible. Arrêter de consommer, c'est pas possible. Télétravailler, c'est impossible. Ne plus prendre l'avion, c'est impossible. Et en fait, on se rend compte que tout ça, c'est possible. Alors, de manière extrême, évidemment. Ouais. Mais est-ce qu'il faut pour autant revenir exactement à la situation de départ? Est-ce que c'est pas une opportunité formidable de se dire, on en a été capable, donc est-ce qu'on peut être capable de ne pas revenir exactement au point de départ? Toutes ces personnalités ont réfléchi là-dessus et il y a beaucoup de choses qui se dégagent très concrètement. Quelqu'un comme Thomas Piketty, par exemple, propose une carte carbone pour chacun. C'est-à-dire, moi, j'ai tant de points sur ma carte carbone, je fais un aller-retour à New York, ça me prend tant de points sur ma carte carbone et puis à la fin de l'année, je peux plus l'utiliser. Donc oui. Voilà, des trucs très concrets.
Audrey Goutard, il va falloir plancher sur des propositions renversantes.
En tout cas, oui, renverser la table d'une certaine façon, puisque avant cette crise du Covid, on sentait bien que les Français étaient excédés par beaucoup de choses, ressentaient un malaise. La preuve, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec la crise des personnels de santé. On voyait bien qu'il y avait cette espèce de sentiment d'être comme des hamsters dans une roue, avec un sentiment d'une fuite en avant, si vous voulez. Et c'est vrai que cette crise, tout à coup, a donné l'impression, je suis tout à fait d'accord, donne l'impression que Tout est possible. Il est possible de réfléchir autrement. Il est possible d'avancer différemment. Et l'énorme cohésion qu'ont montré les Français en se confinant, en se respectant les uns les autres, montre qu'effectivement, on peut avancer un peu plus loin pour un mieux-être. Tout simplement, le mieux-être.
Une note très positive pour refermer ces informés de France Info, également avec vous, Stéphane Vernet, j'imagine, point de vue partagé, il va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination. Tiens, d'ailleurs, vous allez nous donner au passage la une de Ouest France demain.
Ah, la une de Ouest France, c'est les plages qui rouvrent, le tour des plages, le tour des plages de l'Ouest.
C'est chez vous.
Oui, et puis de toute la façade ouest. Oui.
Allez, merci à tous les quatre. Merci à Chloé Morin, Audrey Goutard, Alexandre Falipou et vous-même, Stéphane Vernet, d'avoir participé à ces informés de France Info. Je rappelle également, nous l'évoquions à l'instant, la une de l'Obs, le monde d'après, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. Merci à tous les quatre. Et pour ma part, je vous dis à demain soir pour une toute nouvelle édition des informés de France Info.